Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Je vous le disais dans les titres, l'aide alimentaire chez nous, une nouvelle enquête de terrain alerte sur une dégradation rapide en ce début d'année. Baisse des approvisionnements, hausse continue des demandes, services à saturation. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Brigitte Grisard, chargée de mission pour la Wallonie et Bruxelles à la concertation aide alimentaire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors on va aller directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien, pour nous parler de l'ampleur de la baisse des approvisionnements observée depuis le début de l'année.
Oui, donc pour rappel, cette enquête, c'est une photographie des trois premiers mois 2026 et ce sont 120 organisations qui ont répondu à cette enquête sur les deux territoires Wallonie-Bruxelles. Et donc, cette enquête confirme évidemment qu'il y a une baisse des approvisionnements. Typiquement, dans le cadre du Fonds social européen, qui est une des sources d'approvisionnement, on est passé de 27 produits à 15 produits, plus une diminution des invendus. Donc globalement, on peut dire qu'il y a une baisse de 30% des approvisionnements.
Alors d'où vient essentiellement cette baisse des approvisionnements? Comment on peut l'expliquer?
Alors elle est multiple, comme je le disais, donc le cofinancement des pouvoirs publics fédéraux dans le cadre du Fonds social européen a diminué depuis 2025, ce qui fait qu'on a des produits qui diminuent également, donc on passe de 27 produits à 15 produits distribués. La diminution des invendus également, qui est multifactorielle également, parce que donc d'abord les grandes surfaces gèrent un petit peu mieux, il y a l'inflation, il y a la présence des start-up et aussi... le fait aussi qu'il y a une augmentation de la demande des bénéficiaires et donc du coup, il y a moins de nourriture à distribuer.
Vous avez parlé de 120 organisations. Justement, combien d'entre elles expriment un fort sentiment de saturation?
Alors, on parle de 57 organisations sur les 120, ce qui correspond à 47% des organisations qui expriment un sentiment à l'échelle de 5 sur 5 d'une forte saturation.
Alors, près de la moitié des organisations déclarent avoir diminué les quantités distribuées. Bien évidemment, des conséquences, tout cela pour les bénéficiaires.
Oui, donc les conséquences, c'est moins dans les colis, moins dans l'assiette, des listes d'attente et aussi des associations qui doivent aller rechercher sur leurs fonds propres financiers pour pouvoir éventuellement faire des achats de denrées, payer les frais de livraison, payer les frais de carburant, etc. Et surtout, prendre un temps de dingue pour ces associations de rechercher des nouvelles sources d'approvisionnement.
Justement, vous parlez de ces organisations qui tirent dans la réserve. Jusqu'quand elles vont pouvoir tenir finalement?
Ça, c'est la vraie question. Si ça continue comme ça, elles vont pas pouvoir tenir. Il y en a déjà certaines qui commencent à fermer, certaines qui réduisent leur permanence, etc. Donc si ça continue comme ça, on frôle la catastrophe. Ça veut dire s'il n'y a plus d'associations, plus de bénévoles qui soutiennent, on va se retrouver avec des gens qui ont faim dans la rue.
Du coup, les files s'allongent et quel nouveau public vous voyez arriver?
Alors cette enquête nous a montré que dans les nouveaux publics, on a des travailleurs et aussi une augmentation évidemment des chômeurs qui ont été exclus du chômage et qui sont en attente par exemple d'un dossier au CPS et qui n'ont aucun moyen.
Alors le secteur repose à 70% sur des bénévoles. Est-ce que ce modèle de bénévolat est encore tenable aujourd'hui face à une telle pression?
Non. Si ça continue comme ça, ce n'est pas tenable. Donc, merci déjà à tous ces citoyens qui donnent de leur temps pour nourrir ces personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Mais si ça continue comme ça, ça va exploser dans tous les sens.
Vous dénoncez aussi un renvoi de responsabilité entre les différents niveaux de pouvoir. Quels sont, disons, les pouvoirs publics les principalement concernés dans tout ça?
Alors, c'est à la fois le pouvoir fédéral et les régions, bien entendu, qui se renvoient la balle. Donc, on parle ici de nourrir des personnes, qui est un besoin vital et fondamental. Et donc, oui, c'est tous les niveaux de pouvoir.
Alors, quelle réponse concrète vous attendez de la part des autorités par rapport à cette problématique?
Alors, on a deux revendications principales. La première, c'est que face à cette crise, il y a l'urgence dans laquelle on est, c'est de soutenir financièrement les associations, que ce soit par l'achat de denrées alimentaires, par des mises à moyens financiers pour du personnel, qu'importe, et aussi de développer une vraie politique du droit à l'alimentation et que tout le monde dans ce pays puisse avoir accès à une alimentation digne et de qualité pour tous et toutes.
Et justement, si rien ne change dans les prochains mois, quel scénario est-ce que vous redoutez pour le secteur finalement?
Alors, on redoute des tensions du côté à la fois des personnes qui donnent la nourriture et de ceux qui la reçoivent. Donc, une augmentation de la violence, des tensions, des fermetures. Et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces personnes qu'on ne va pas pouvoir nourrir dans notre société?
Si vous avez encore un dernier mot, un message à faire passer avant de nous quitter.
Le message à se faire passer, c'est que se nourrir est un besoin vital et fondamental et qu'il ne s'agit pas de jouer avec ça. Je rappelle qu'il y a 600 000 personnes dans ce pays qui n'ont pas la possibilité de se nourrir correctement tous les jours.
Voilà, c'était la conclusion de Brigitte Grisard. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour la Wallonie-Bruxelles à la concertation aide alimentaire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Restez avec nous sur Arabelle. La suite, c'est tout de suite.
carrefour de l'info sur Arabelle.
Et tout de suite, la suite de votre carrefour de l'invité, de l'information avec notre deuxième invité aujourd'hui, Ismaël Daoud, CEO de Matt Waters, spécialisé dans la rénovation énergétique de logements collectifs à Bruxelles. L'entreprise vient de lever 10,75 millions d'euros pour accélérer son développement. Ismaël Daoud est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Matt Waters vient donc de sécuriser 10,75 millions d'euros auprès de Belfius, Finance Invest Bruxelles et Econova. Comment allez-vous utiliser cette grosse enveloppe dans les prochains mois ?
Alors, nos solutions, c'est on va rénover les copropriétés, mais comme souvent les copropriétés n'ont pas beaucoup d'argent, enfin on l'a vu juste avant avec le sujet de la précarité, ouais. On vient avec des solutions de financement. On essaie de dire, ne payez pas les installations techniques, on va nous les financer avec l'argent qu'on reçoit, comme vous avez dit, Belfius, Econova, FIB, Finance Bruxelles. Et on va se rembourser sur les économies d'énergie, on va étaler le remboursement sur 10 ou 15 ans pour soulager en fait la facture des travaux.
Alors comment ce financement va-t-il un petit peu accélérer, on en parle beaucoup, la décarbonation des 20 000 logements collectifs visés?
Alors dans les solutions qu'on préconise, donc, on voit qu'il y a beaucoup de passoires énergétiques avec des labels PEB qui sont dans les rouges, F, voire G, oui. Parfois même E. Et nous, on propose de remonter ce label vers les couleurs plutôt vertes pour que ce soit performant vers le niveau C, voire D. Parfois, on arrive même au niveau B. Et donc tout ça, il faut faire un paquet de travaux. Il y a des travaux qui sont plus intéressants que d'autres. Et nous, on est aussi bureau d'études, donc on essaie de conseiller les bons travaux. Et après, on les met en œuvre. On les finance et on dit, on va vous ramener votre logement, enfin l'ensemble des logements à un niveau C par exemple, pour telle enveloppe de travaux, mais en fait vous n'avez pas payé tout de suite les 300, 400, 500 000 euros de travaux, on va les étaler, ça va vous coûter peut-être 50 ou 60 euros par mois. Mmh. On fait un peu le Netflix de la rénovation énergétique, on ne paye plus les travaux, mais on paye l'abonnement qui inclut les travaux, qui inclut la maintenance, le service de garde, parfois la fourniture d'énergie aussi qui est incluse, donc voilà, on essaie vraiment d'être novateur à ce niveau-là.
Alors Ismaël Daoud, en quoi ce modèle représente quelque part une alternative face à la réduction des budgets publics, on en parle beaucoup, et des fonds de réserve des copropriétés?
Alors, c'est vrai que les fonds de réserve des copropriétés diminuent de plus en plus. On est actif depuis 11 ans et on est un peu effaré, en fait, quand un syndic nous dit « Non, j'ai que 33 000 euros sur le compte de la copropriété, c'est quand même 50 appartements. » On dit « Oulala !» Avant, on n'entendait pas ça, il y a 10 ans, il y avait quand même plus d'argent. Et donc, on dit « Gardez votre peu d'argent pour les travaux vraiment essentiels. » S'il faut refaire l'ascenseur, s'il y a une terrasse qui commence à se décrocher, s'il y a vraiment des problèmes de stabilité, de structure, ou de, voilà. Et les travaux qui sont, entre guillemets, un peu moins essentiels, mais quand même nécessaires au niveau énergétique, parce qu'après, il y a les amendes PEB qui vont arriver. Mais ça, on vous le finance, en fait, comme si on était une banque. Sauf qu'on n'est pas tout à fait une banque, vu qu'on est aussi un exploitant des installations. Donc, on va faire l'entretien pendant 15 ans. Donc, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Et donc, c'est ça un peu la force de What Matters, c'est qu'on est un bureau d'études, on est un installateur, on est la banque, et on est ici aussi une société de maintenance. Donc, il y a un continuum de responsabilité qui fait, on ne va pas concevoir et dire, faites n'importe quoi comme travaux, on ne va pas installer n'importe quoi parce qu'après, on doit exploiter. Le financement dépend des économies d'énergie. Et l'exploitation, il faut bien exploiter ce qu'on a construit. Donc, voilà, les gens sont vraiment bien accompagnés avec nous.
Alors, vous avez déjà modernisé 15 000 logements en 10 ans. Quelles ont été, disons, les principales étapes progressives de cette croissance?
Alors, dans ces 15 000 logements, c'est vraiment, on a mis un focus sur les installations techniques, la chaufferie. Et donc là, on a vraiment essayé de remplacer cette chaufferie, de mettre de la cogénération, de mettre des pompes à chaleur, pour que ce soit, qu'on réduise de la facture de quasi 50% au niveau du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. On a aussi isolé des toits et pas mal d'installations photovoltaïques. Ça, c'est un peu les deux gros paquets les plus intéressants. Et on voudrait s'étendre. Il y a les bornes pour recharger les véhicules électriques. Il y a l'isolation des pignons aveugles qu'on voudrait réaliser aussi. Il y a le partage d'énergie photovoltaïque qu'on développe énormément. Donc là, ça vient un peu tout récemment dans le développement de la société.
Alors, on le sait, les partenariats sont importants dans ce genre de gros projets. Justement, quel type de partenariat avez-vous noué avec les grands promoteurs ?
Alors, les promoteurs, donc, l'avantage, c'est qu'avec les promoteurs, on est là depuis le début. Le bâtiment n'existe pas encore et donc on peut vraiment modeler le bâtiment en disant mais non, mettons plutôt les installations à tel endroit, faisons plutôt tel genre d'équipement. Et les promoteurs sont intéressés parce qu'on est là à la construction avec les promoteurs et puis après on sera là quand il y aura les occupants et le syndic avec pour gérer le bâtiment. Et on dit aux promoteurs, si jamais le syndic et les habitants se plaignent que le bâtiment ne fonctionne pas tel que tu l'as construit, ils ne vont pas aller toquer à la porte du promoteur, ils vont aller sonner chez What Matters. Disant, hey, What Matters, on n'a pas assez chaud, ou il faut attendre trop longtemps pour voir l'eau chaude sanitaire à la douche, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas revenir vers le promoteur. Et ça, le promoteur, il aime bien, évidemment, d'avoir quelqu'un qui peut prendre tous les coups de bâton, éventuellement. Et nous, ce n'est pas grave, c'est notre métier. On dit, il n'y a pas de souci. On sait comment on a conçu les installations, on sait sur quel bouton il faut appuyer pour augmenter la température de l'eau chaude sanitaire. On connaît en fait le projet, vu qu'on était là au moment où le bâtiment s'est construit.
Mmh. Alors ça, c'est pour les partenariats et les grands promoteurs. Il y a aussi, disons un petit peu, les chevilles ouvrières, votre équipe, 30 personnes aujourd'hui. Parlez-nous un peu des ressources humaines et aussi des profils que vous recrutez, que vous cherchez aussi parfois.
Alors, comme on a un métier qui est un peu diversifié, un bureau d'études, installateur, financier et même maintenance, on est obligé d'avoir tous ces profils à la fois. Au niveau de l'installation, pour être honnête, on travaille vraiment avec des partenaires ou des sous-traitants. Oui, enfin, c'est un peu péjoratif, sous-traitants. On préfère le mot partenaire parce qu'ils sont là depuis très longtemps avec nous. Et donc, ce sont des chauffagistes, des électriciens, des poseurs de panneaux photovoltaïques, des poseurs d'isolants sur le toit. Et on a tout un réseau, on a une sorte d'écosystème de partenaires qui travaillent pour nous. Et on les sollicite au gré des projets. Voilà. Et nous, on est vraiment la coordination, donc la copropriété a comme seul interlocuteur What Matters. Et nous, on fait la gestion. Parce qu'un chantier, c'est plusieurs intervenants. Et on fait un peu l'entreprise générale, en fait. Mm-hmm. Plutôt que l'entreprise séparée.
J'ai une question, ou plutôt deux questions. D'abord, les principaux freins que vous pouvez rencontrer auprès des copropriétés bruxelloises. Et justement, deuxième question, comment convaincre des propriétaires qui hésitent parfois à faire face à un projet de rénovation énergétique?
Donc les freins, c'est d'abord la complexité. Donc il y a les primes, et puis il n'y a plus de primes. Il y a des certificats verts, et puis après il n'y en a plus. Et puis il y a des amendes, et puis on peut indexer le loyer, et puis on ne peut plus indexer le loyer quand le PIB est mauvais. Donc voilà, c'est un peu la soupe pour les propriétaires. Donc la première étape, c'est d'un peu évangéliser en disant, l'état de la réglementation. On ne sait pas ce que ce sera demain. Néanmoins, vu l'état d'aujourd'hui, ce sont tel type d'équipements que c'est intéressant de faire. Et voilà la solution, le package. Si dans 3 ans, il y a une taxe sur le CO2 qui se rajoute sur le gaz naturel, eh bien, on n'a mis qu'une seule pompe à chaleur aujourd'hui. Eh bien, dans 3 ans, on va vous en rajouter 3 pompes à chaleur. Parce que peut-être qu'avec cette taxe, 3 pompes à chaleur seront plus intéressantes. Donc, on essaie vraiment d'être là dans le bâtiment pendant 15, voire 20 ans. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité qui arrive, on se dit, cher copropriétaire, aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de mettre des batteries électriques pour stocker l'énergie de vos panneaux solaires qu'on a installés il y a 4 ans. Voilà, on essaie vraiment d'accompagner la copropriété de cette manière-là.
Mmh. Autre question, si vous le voulez bien, Ismaël Daoud, quel rôle joue Belfius, Finance Invest Bruxelles et Econova dans le développement justement de votre modèle économique particulier?
Alors, donc, l'argent de ces financeurs, c'est vraiment pour payer des travaux. Ce n'est pas pour payer les bons hommes, pour payer le marketing de What Matters, etc. Donc, il y a vraiment une dissociation assez forte. Et donc, cet argent va aller dans les copropriétés, à 100%. Les 10 millions, là, vont aller vers les copropriétés en 2026, on l'espère. Et voilà, le développement de What Matters, là, il y a les fonds propres, il y a le bénéfice accumulé depuis 10 ans qui est resté dans la société pour payer les gens qui ne rapportent pas, entre guillemets, tout ce qui est marketing, la vente, le développement de nouvelles solutions. On a un petit département recherche et développement aussi. On essaie d'être très innovateur. Donc voilà, vraiment, cet argent-là, c'est vraiment pour payer les travaux à la place des gens, à la place des copropriétaires. Donc, c'est important de savoir.
Alors, on rappelle qu'on parle de Bruxelles et justement où se situe notre capitale par rapport aux autres régions en matière de rénovation énergétique collective.
Alors, Bruxelles, c'est la région où il y a le plus de copropriétés, Il y en a encore aussi à Liège, du côté d'Anvers et dans d'autres grandes villes. Bruxelles, c'est un bon concentré. On voit bien que le bâti n'a pas été rénové tout récemment. Quand on regarde les scores PEB, il y a quand même mieux à faire. Il y a 40% de passoires énergétiques à Bruxelles, c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'en 2033, c'est 40% de tous les appartements à Bruxelles qui vont recevoir une amende. C'est immense en fait, il y a 370 000 appartements, dont 40% vont recevoir une amende dans 6 ans. Donc il y a un potentiel immense de travaux à faire en fait. Donc on est très focusé sur Bruxelles, mais on regarde ce qui se passe en région wallonne, un peu en Flandre.
Alors, on va se projeter vers l'avenir avant de nous quitter. Deux questions, les prochaines étapes pour atteindre l'objectif de 20 000 logements supplémentaires et la stratégie derrière l'objectif de finalement d'investir 50 millions d'euros d'ici 2030.
Oui, alors là on vient avec des solutions un peu plus standards que ce qu'on a fait à l'époque, c'était un peu plus de sur-mesure et donc on a une solution de leasing de chaufferie. Voilà, si vous avez une chaufferie obsolète, on va la rénover en mode leasing, donc on va rester propriétaire de cette chaufferie, mais comme une voiture, vous allez pouvoir utiliser cette chaufferie. On a la même chose pour les panneaux solaires, sauf que pour les panneaux solaires, la formule leasing est assez sympa, parce qu'il y a encore des certificats verts, donc en fait, l'installation photovoltaïque, elle est gratuite. Il n'y a même pas d'abonnement à payer pour l'installation photovoltaïque. Pour la chaufferie en leasing, il y a un abonnement à payer. L'isolation du toit, là, on facture comme un prestataire et on donne une souplesse de paiement jusqu'à un an. Ils peuvent attendre un an avant de nous payer. Ouais. Un étalement de paiement. Ouais. Voilà, donc on essaie d'avoir des produits un peu standards et pour se dire, voilà, on y va, on sait que ça marche assez bien. C'est validé par la PEB, comme quoi ça permet d'améliorer les scores PEB et on avance de cette manière-là.
Mmh, donc investir 50 millions d'ici 2030, c'est réalisable.
Ben, on a chiffré que si on voulait rénover les copropriétés à Bruxelles, il y en a pour 2 milliards d'euros. Donc.
Voilà, il y a matière.
Exactement.
Voilà, c'était la conclusion d'Ismaël Daoud. Je rappelle que vous êtes CEO de Matwaters, spécialisé dans la rénovation énergétique de logements collectifs à Bruxelles, l'entreprise qui vient donc de lever 10,75 millions d'euros pour accélérer son développement. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de votre Carrefour de l'Info.